Bonjour, chers frères et sœurs. Et ce matin, nous voulons regarder ensemble le psaume 115. Nous voulons regarder ensemble le psaume 115. Mais avant, je veux juste pour nous rappeler qu'on a 150 psaumes lorsqu'on feuillet du psaume 1 jusqu'à la fin. Ça nous fait 150 psaumes. Et puis, les spécialistes ont réparti ça en 5 livres. OK? Ben, le psaume, au fait, c'est des poèmes. C'est des poèmes qui sont chantés avec des instruments de musique. Comme on l'a chanté ce matin, le psaume 115, non pas à nous, non pas à nous, ô Éternel, à ton nom donne gloire. Et lorsqu'on regarde le livre des psaumes, il y a de la louange, il y a des prières, il y a des lamentations, il y a des cris qu'on apporte à l'Éternel. Donc les psaumes nous permettent d'avoir, je dirais, une adoration individuelle avec Dieu, mais aussi une adoration collective aussi avec Dieu. Donc, juste ce petit rappel-là pour qu'on puisse démarrer avec nos psaumes ce matin. Et ce que je voudrais préciser aussi, lorsqu'on prend le livre des psaumes, on voit qu'il y a différents auteurs. Hein. On va nous citer. Et le plus célèbre de ces auteurs-là, c'est le roi David, qui a écrit plus de 170 psaumes. OK? Et plus de 70 psaumes, pas 170. Là, on sera un calcul négatif. 170 moins 150, ça fait moins 20. OK. C'est bon? Donc, je reprends. Donc, le roi David, qui est l'un des plus célèbres, effectivement, auteurs des psaumes, qui a écrit plus de 70 psaumes. C'est bon? Et puis, lorsqu'on parcourt quand même les psaumes, on se rend compte qu'il y a des psaumes pour lesquels il n'y a pas d'auteur. C'est-à-dire, les auteurs ne sont pas présentés. Mais ce qu'on veut croire, ce qu'on veut dire, bien que les auteurs ne soient pas présentés, cela ne met pas en doute l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Donc, les psaumes pour lesquels on n'a pas d'auteur, on prie avec parce que Dieu est dedans. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Et le contexte du psaume 115, le psaume 115 est un psaume de louange. C'est un psaume de louange en l'honneur de l'Éternel pour sa bonté et pour sa fidélité. Et c'est un psaume qui était chanté durant des périodes de fêtes, les fêtes juives. Okay? Donc, c'est durant ces périodes-là que ce psaume était chanté, ou pendant des périodes de dédicaces. Donc, le psaume 115, effectivement, était chanté. Et comme je l'ai dit tantôt, pour ce psaume-là aussi, l'auteur n'est pas présenté. Cependant, ce psaume serait rédigé, lorsqu'on va le lire, serait rédigé à une période où certainement les enfants d'Israël étaient entourés de peuples idolâtres. Soit de peuples idolâtres qui se moquaient de leur Dieu, ou soit de peuples idolâtres qui attendaient effectivement que le Seigneur se manifeste dans la vie des enfants d'Israël. Donc, ils certainement passaient par des périodes d'humiliation aussi, ou par des périodes difficiles. Et alors, le psalmiste va élever sa voix vers l'Éternel pour demander à Dieu de venir défendre son nom. Donc, non pas à nous, non pas à nous, Éternel, à ton nom, donne gloire. Donc, le psalmiste abandonne effectivement à l'Éternel et lui demande de donner gloire à son nom. Et mais en demandant à l'Éternel de donner gloire à son nom, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire que la gloire n'est pas dans les victoires que l'Éternel leur assure. La gloire n'est même pas dans les bienfaits que l'Éternel leur accorde. La gloire n'est même pas dans leur santé. La gloire n'est même pas dans le matériel qu'ils puissent posséder. La gloire n'est même pas au peuple même qui va au combat et qui gagne des victoires. La gloire n'est même pas au leader. Peut-être qui guide effectivement ce peuple-là. Mais la gloire est dans le nom de l'Éternel. Amen. Donc, il est en train de ramener les enfants d'Israël à porter leur regard sur la gloire, sur l'Éternel lui-même, sur Dieu. Et nous voulons regarder ce psaume-là pour voir comment pour nous aussi, nous pouvons porter nos regards vers l'Éternel. Comment dans des circonstances un peu complexes ou difficiles autour de nous, où on peut être amené à être moqué, à vivre des situations difficiles, et on cherche des repères, on cherche des occasions, comment le psalmiste nous encourage à porter nos regards effectivement vers l'Éternel ou à mettre notre confiance dans le nom de l'Éternel. Lisons le texte, s'il vous plaît. Il dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent pas, et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Amen. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta parole. Merci de nous enseigner ce matin. Mais tu déclares que ta parole restaure l'âme, ta parole transforme, ta parole guérit, ta parole renouvelle, Seigneur. Et ce matin, nous voulons venir à tes pieds afin que dans ta grâce encore, tu nous renouvelles, tu nous restaures, tu nous bénis, Seigneur. Père éternel, ce matin, je te bénis pour chacun de nous ici présents, parce que c'est en toi que nous voulons mettre notre confiance éternelle et nous te prions que tu nous y aides. Père, viens et parle-nous ce matin encore. Bénis-nous dans ta grâce. Révèle-nous, Seigneur, les choses cachées qu'on ne connaît pas dans ta parole en ce moment. Instruis-nous, éternel. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour l'instrument que tu permets que je sois ce matin. Je te prie que Dieu, tu délies encore ma langue et que tu nous parles dans ta grâce. Seigneur, je me révèle de ton autorité. Seigneur, en vertu du pouvoir que tu me confères en tant qu'enfant de Dieu, Père, je me lève contre tout esprit impur, toute domination, toute principauté. Je me lève contre toute pensée qui est tenue captive, Seigneur. Tout raisonnement tenu captif, Père. Seigneur, et je les renvoie dans les abîmes au nom puissant de Jésus. Et je te prie dans ta grâce que Dieu, par ta miséricorde, tu nous bénisses ce matin. Merci parce que Dieu, nous sommes bénis en toi au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Lorsque nous lisons notre passage, il nous dit, « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. » Ici, le psalmiste, en portant ses regards vers l'Éternel, effectivement, comprend que en toute occasion, la gloire doit revenir à l'Éternel. La gloire est à lui. En toute occasion, c'est l'Éternel Dieu qui doit être mis en avant. Et il demande ici à l'Éternel de venir défendre son nom. Et comme je l'ai situé tantôt, certainement ils étaient dans un contexte où ils étaient confrontés à des situations difficiles, où ils étaient confrontés encore à la présence d'autres dieux autour d'eux. Alors il crie à l'Éternel et il dit à l'Éternel, ce n'est pas à eux la victoire, ce n'est pas à nous la victoire dans les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de passer, où on a besoin d'être restauré, où on a besoin de délivrance. La gloire n'est pas à nous, mais la gloire est à toi. Seigneur, viens, viens, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, viens donner gloire. Et pour lui, c'est une façon de demander à l'Éternel de venir défendre son nom. Cela nous rappelle un peu l'histoire de Gédéon. On dit quand Dieu rentre en contact avec lui et il va renverser les dieux de Baal dans la maison de son père. On nous dit que toute la population, je dirais tout le village se lève et puis on vient dire, mais Gédéon, pourquoi tu fais ces choses-là? Le père de Gédéon dit simplement à la population, mais si votre Baal, votre Dieu Baal est réellement Dieu, mais qu'il se défende lui-même. Un Dieu se défend, n'a pas besoin de le défendre. Donc c'est une façon ici pour le psalmiste de dire à Dieu, viens et défends ton nom. Viens, défends ton nom parce que c'est ce nom-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Viens, défends ton nom parce que c'est sur ce nom-là qu'on a compté et on est sorti. C'est avec ce nom-là, ou sur ce nom nous avons marché dans le désert. Mais aujourd'hui, nous sommes environnés d'idoles. Aujourd'hui, nous sommes environnés de situations difficiles qui nous oppressent. Viens, défends ton nom. Mais défendre son nom, c'est nous défendre en réalité. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Donc, au milieu d'un peuple idolâtre, le psalmiste dit à l'Éternel de venir. Il dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu est puissant. Le nom de Dieu est au-dessus de tous les noms. Le nom de l'Éternel fait fuir les adversaires. Le nom de l'Éternel accomplit des miracles qu'ils ont vus. Donc, ils peuvent se confier en ce nom-là. Oui, donc, il lui demande de donner gloire à son nom en venant les délivrer peut-être de leur adversaire qui est puissant. Peut-être de leur adversaire en face duquel ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont aucune capacité. Alors, ils s'abandonnent à l'Éternel. Ils appellent l'Éternel. En indiquant, non pas à nous, le psalmiste met en évidence le fait que celui qui opère, celui qui délivre, celui qui intervient dans les combats, c'est l'Éternel. C'est vrai qu'il va utiliser les hommes, les instruments que nous sommes pour manifester sa puissance. Mais en réalité, c'est lui qui opère le miracle. Voilà pourquoi on nous dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ni la vigueur du cheval qui assure la victoire. Mais l'œil de l'Éternel est sur ceux qui espèrent en sa bonté, sur ceux qui le craignent. Parce que c'est l'Éternel qui assure la victoire. Donc quand le psalmiste est en train de crier à l'Éternel de la sorte, il est en train de dire, viens combattre pour nous, Seigneur. Viens intervenir en notre faveur. Et viens manifester ta grâce à notre égard. C'est l'Éternel qui bâtit. C'est lui qui assure la victoire. C'est lui qui délivre. Donc la gloire est à lui. La gloire est à l'Éternel. L'auteur donne les raisons pour lesquelles l'Éternel doit défendre son nom et il s'appuie sur la nature de Dieu. Il dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Mais pourquoi Dieu doit donner gloire à son nom? Pourquoi Dieu doit donner gloire à son nom? Il ne dit pas, viens donner gloire à ton nom parce qu'on marche tellement dans la fidélité avec toi. Il ne dit pas, viens donner gloire à ton nom parce que ma vie de sainteté, elle est trop au top. Viens donner gloire à ton nom parce que, Seigneur, tous les dimanches ou à chaque jour d'adoration, on dirait là, c'était les sabbats. Donc, tous les sabbats, on est dans ta présence. Il n'est pas en train de leur dire, viens donner gloire à ton nom, Seigneur, parce que je suis un homme pur. Le psalmiste n'est pas en train de le dire. Mais il dit, viens donner gloire à ton nom, mais pourquoi? Viens donner gloire à ton nom à cause de ta fidélité. Amen. À cause de ta fidélité, viens donner gloire à ton nom. À cause de ta bonté, viens donner gloire à ton nom. La fidélité de Dieu fait référence au fait qu'il tient ses promesses. Et Dieu ne se dérobe pas de sa fidélité. Il ne se dérobe pas de ses promesses. Et c'est à cela que le psalmiste appelle. Le psalmiste appelle l'Éternel, il appelle la fidélité de Dieu. Il appelle aussi la bonté de Dieu. Donc quand on va crier à l'Éternel, quand on va dire à l'Éternel d'intervenir dans des circonstances, pas à cause de nous, mais à cause de sa fidélité et à cause de sa bonté. Voici les raisons pour lesquelles le psalmiste peut crier à l'Éternel. Il dit, parce que toi, tu es fidèle. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne regardes pas à nos torts. Tu ne regardes pas à nos vies. Mais viens, Seigneur, à cause de ta fidélité, simplement à cause de ton nom qui est invoqué, fais quelque chose. Lorsqu'on regarde la vie du peuple d'Israël, On nous dit, peut-être je vais en parler, mais ça me vient donc je vais anticiper. On nous parle de du veau d'or qui est fait déjà. Donc ils font le veau d'or, Moïse descend, le veau d'or est fait. Dieu est tout fâché, tout en colère, dit je vais détruire. Et Moïse rappelle à l'Éternel, il dit, ben regarde, toi tu as fendu la mer, ils sont passés. On est arrivé dans le désert, mais regarde ça, si tu les détruis, qu'est-ce que les gens vont dire derrière nous? Qu'est-ce que les gens vont dire? Regarde à ta fidélité. Tu as promis nous amener à la terre promise. Envoie ton peuple à la terre promise. Dieu va se repentir de sa colère. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on voit comment la fidélité de Dieu est manifeste. Le peuple était dans un péché grave même. Mais Moïse va rappeler à l'Éternel sa fidélité et sa bonté. Nous aussi, on peut se tourner vers l'Éternel pour dire à l'Éternel, regarde à ta fidélité, regarde à ta bonté et interviens pour nous, Seigneur. Et c'est cela que le psalmiste est en train de faire. Oh, combien est grande ta bonté! Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Psaume 31, versets 19 à 20. Donc, on nous dit que Dieu tient en réserve sa bonté pour ceux qui espèrent en lui. Dieu ne nous abandonne pas, chers frères. Sa bonté est pour nous. Et sa fidélité aussi se manifeste pour nous. Sa fidélité, comme je le disais, c'est toujours le Dieu qui tient ses promesses. Et l'on peut compter sur lui. Il s'appuie sur sa fidélité pour intervenir et pour agir. Nous pouvons compter sur la bonté et la fidélité de Dieu pour nous approcher de lui. Dans l'adversité, dans les moments difficiles, l'Éternel ne cesse de manifester sa grâce et il peut encore donner gloire à son nom. Il dit qu'il ne t'abandonnera pas et ne te délaissera pas. L'Éternel est avec nous dans la barque. Comme Jésus était dans la barque avec les disciples, tout était perturbé pour eux. Ils ne savaient pas à quel saint se vouer. C'est-à-dire, certains étaient des spécialistes en pêche. Donc, ils étaient habitués d'être sur les eaux. Ils étaient habitués de voir des vents violents. Ils étaient habitués de ramer à contre-courant par moment. Mais ce jour-là, c'était difficile. Leurs capacités sont tombées. Leurs espérances étaient, je dirais, très basses. Ils n'avaient plus d'espérance, mais ils se sont souvenus que dans la barque, il y avait quelqu'un. Quelqu'un qui les avait appelés à le suivre. Et peut-être même sous forme de remontrance, ils sont allés le voir pour dire, « Oh Joe, boss, fais quelque chose là. Nous, on est en train de mourir, toi tu dors. » Mais quand il se sont levé, quand il s'est levé, quand il est venu, ils étaient surpris. Leur réaction après était de dire, « Mais quel est cet homme à qui le vent ?» Et la tempête obéisse. Parce qu'il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il est le maître de tout. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est encore sur son trône. Et pour toi aussi, il est capable de tenir sa fidélité et capable de tenir sa bonté. Parce qu'il les a en réserve pour toi. Comme il les a en réserve aussi pour moi. Au verset 2, il nous dit, « Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu ?» Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Donc c'est le psalmiste qui pose la question. Mais pourquoi les nations vont dire, où est donc leur Dieu? Souvent dans des circonstances, on a l'impression que Dieu est lent. Moi, des fois, je pense que Dieu est lent. Oui, parce que je vais aller vite, mais... Il dit, calme-toi, mon gars. Je ne sais pas si cela vous arrive aussi. On passe par des périodes, des fois, difficiles. Et puis on veut que le Seigneur intervienne. Et pendant que tu es en train de chercher avec le Seigneur, c'est là que quelqu'un vient te dire, « Ah, mais Dieu, vous les chrétiens, là, votre Dieu là, il est trop lent. Non, je connais quelqu'un là-bas, tu vas le voir, il fait ça vite. » Et on se retrouve dans des dilemmes. On commence par douter même. Mais Dieu, il est encore là. Il ne nous abandonne pas. Alors le psalmiste, pourquoi les nations diraient-elles, mais où est donc leur Dieu? Certainement que tu te lèves peut-être très tôt à 5 heures, 4 heures du matin, tu commences par prier, tu commences par prier jusqu'à 6 heures, tu t'apprêtes, tu vas à des occupations. Mais quand tu viens, tes difficultés t'attendent. Et tu continues, tu persévères. Mais pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Mais pendant ce temps, on te dit, non, mais il y a un Sherman, je feuilletais le journal un jour, et puis je vois Sherman, rue Saint-Hubert. Je dis, ouais. Et puis, des fois, quand vous prenez la rue Saint-Hubert, vous voyez la promotion, la pancarte est là. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si c'est devin, si c'est magicien ou quoi, et puis venez, vos problèmes seront résolus en une journée. Là, je ne parle même pas de l'évangile de prospérité, là. Je parle des esprits méchants, je parle des démons, je parle des puissances maléfiques qui font ces promotions-là. Et donc, quand tu passes devant et puis tu regardes, tu dis, ouais, peut-être que si je fais un tour là, ma situation est réglée. Mais c'est démoniaque et c'est un piège. Parce que quand on parle de l'idolâtrie, quand on parle de ces choses, on a l'impression que c'est peut-être en Afrique, c'est peut-être en Haïti, mais c'est là. Et j'étais un adepte d'horoscope. J'aimais tellement ça, à telle enseigne que même quand je n'avais pas d'argent pour acheter des journaux, je me mets près du vendeur. Je dis, est-ce que je peux voir juste quelque chose dans ton journal, rapidement? Mais les informations ne m'intéressent pas. Non, non. Ce qui m'intéresse, qu'est-ce que le poisson va faire? Qu'est-ce que le verseau va devenir? Donc, c'était un attachement pour moi. Et puis, donc, tu lis et puis tu y crois fermement. À la fin de la journée, quand tu fais le bilan, tu ne sais pas si c'est... tu ne sais même pas ce qui se passe à la fin de la journée parce que tout ce qui est raconté avec ce que tu as vécu, des fois, sont diamétralement opposés. Mais malgré cela, on fait confiance à cela. Mais pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Pourquoi les nations vont le dire? Parce que si on est, Dieu ne nous répond pas, les nations vont se vanter. Mais vous dites que votre Dieu, il est capable de faire ça. Vous dites que votre Dieu, il le fait. Mais en réalité, regardez votre situation. Oui, les regards des nations idolâtres, leur moquerie pourrait pousser les enfants d'Israël à se tourner vers les idoles, vers les faux dieux. Si l'Éternel, Dieu ne donne pas gloire à son nom, le psalmiste ne voudrait pas donner raison aux nations en pensant que l'Éternel les a abandonnés. Parce qu'on va se retrouver souvent dans des circonstances comme ça, pensant que Dieu nous a abandonnés. Ou même quand on ne le pense pas, l'on nous fait croire que Dieu nous abandonne. Autour de nous, par les regards qu'on nous lance, par des propos souvent toxiques qu'on va nous le dire de façon, je dirais, polie. Mais notre Dieu est encore là. Le psalmiste s'interroge sur la réaction des nations païennes et idolâtres si l'Éternel n'agit pas selon sa fidélité et sa bonté pour son peuple. Les nations ne devraient pas avoir de prétexte pour se comparer à l'Éternel, Dieu d'Israël. Pourquoi les nations se poseraient la question « Où est donc leur Dieu ?» Alors, le psalmiste prie dans cet élan-là, pourquoi les nations diraient-elles « Où est donc leur Dieu ?» Je me souviens, une année, j'avais perdu le travail et puis nous prions et puis j'ai un pasteur avec qui qu'on a rencontré, puis on priait ensemble. Et il m'a dit cette phrase-là qui m'est restée tout le temps. Il m'a dit, frère, tu sais, le travail que Dieu nous donne, ce n'est qu'un prétexte. Ce n'est qu'un prétexte que Dieu nous donne pour nous bénir. Une façon de dire que Dieu pourvoit nos besoins. Il est capable d'intervenir dans toutes les circonstances. Mais il va te donner le travail juste pour justifier ton salaire, c'est tout. Mais ce n'est pas le travail qui est ta bénédiction. Amen. C'est Dieu qui nous bénit. Parce que c'est à lui la gloire. Oui, pourquoi les nations diraient-elles? Où est donc son Dieu? Où est donc ton Dieu? Alors, au psalmiste de répondre, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Quand il est au ciel, ça veut dire voir sur la terre. Quand il fait tout ce qu'il veut, ça veut dire qu'il est souverain. C'est-à-dire c'est lui qui prend la dernière décision. Même quand on a l'impression qu'il est en retard, Dieu n'est pas en retard, il est en train d'intervenir pour toi. Amen. Même quand on pense qu'il n'est pas en train d'agir, quand on pense qu'il est bloqué, ou que les situations sont bloquées, et que Dieu n'est pas en train d'intervenir, quelque chose se passe dans l'invisible pour toi. Amen. Oui, Dieu est souverain. Dieu est souverain pour intervenir. Notre Dieu est au ciel. Sa demeure est au ciel, il est au-dessus de tout. Il voit tout, rien ne le surprend. Il fait tout ce qu'il veut. C'est le signe que ton Dieu est tout-puissant. C'est sa volonté qui s'accomplit. Dieu n'est pas indifférent à tout ce que l'on peut vivre, à tout ce qu'on fait. Ou il n'est pas indifférent à tout ce qui se passe dans notre vie. Parce que sa main est encore puissante pour intervenir. Le psaume 42, verset 4 nous dit, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Certainement que tu te retrouves dans cette situation. Et tu cherches, et on te dit, mais où est donc ton Dieu? Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Nous pouvons être sujets d'interpellations toxiques, de moqueries, ou à des conseils même nous poussant des fois à nous détourner de Dieu. À cause peut-être des épreuves par lesquelles on passe. Mais sachant que Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Et quand il fait tout ce qu'il veut, c'est-à-dire il peut décider des moments et des circonstances. Il fait tout ce qu'il veut, c'est-à-dire c'est lui qui pousse les pions. Il fait tout ce qu'il veut, c'est-à-dire il n'est pas indifférent à notre situation. On peut se poser des questions de savoir, mais jusqu'à quand, Seigneur, tu vas agir? Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas intervenir pour me délivrer de cette situation? Des fois, c'est difficile. Des fois, on a de la peine, c'est souffrant. Mais Dieu dit qu'il est au ciel pour toi. Et il fait ce qu'il veut. Ton Dieu est souverain. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Psaume 135, verset 6. On dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il n'y a pas d'espace qu'il ne peut pas contrôler. Il n'y a pas d'espace que ton Dieu ne peut pas conduire. Il n'y a pas d'espace que ton Dieu ne maîtrise pas. Il agit partout. Donc on peut lui faire confiance. Aucun espace lui est interdit. Il est capable d'agir en tout lieu. Ton Dieu est souverain et rien ne le surprend, comme nous l'avions dit. Ta situation ne lui est pas étrangère. Est-ce que Dieu connaît ta situation? Est-ce que Dieu connaît ta situation? Est-ce que Dieu connaît ta situation? Il fait ce qu'il veut. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est tout-puissant. Au verset 4, on nous dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas, ne parlent point. Elles ont des yeux et ne volent point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Donc ici, on voit le psalmiste, il dépeint un peu les idoles des peuples autour de lui. Voici notre Dieu qui est au ciel, il fait tout. Pendant que les nations sont en train de leur dire, mais où est donc leur votre Dieu et tout, il dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout. Mais lorsqu'on le compare au Dieu des nations idolâtres autour de nous, voici leur Dieu. Leurs dieux sont faits de mains d'hommes. Et des fois, quand on regarde ça, ça fait un peu rire, là. C'est le Dieu, il est fait de mains d'hommes, c'est-à-dire les hommes vont prendre les métaux. Parce qu'on nous dit qu'ils sont faits en métaux. Donc, en or, en argent. On va les fabriquer. Et j'imagine, parce qu'on en a vécu, au coin d'une maison, tu vas peut-être placer ton Dieu là. Mais quand tu seras en train de balayer, tu vas soulever ton Dieu, tu vas balayer, et puis après, tu vas venir le replacer. Ça, c'est ça le Dieu des peuples qui les environnent. Pour imaginer, pour qu'on voit un peu, regardez comment la fabrication du veau d'or a pu se faire. Pendant que Moïse est sur le mont Sinaï, ils viennent voir Aaron, fais-nous, crée-nous un Dieu que nous on va adorer. Il dit, bon, mais ça c'est simple, vous avez des bijoux. Dites à vos femmes d'envoyer leurs bijoux, on va créer un Dieu. Et le veau d'or est fait. Bon, à partir d'aujourd'hui, voici votre Dieu. C'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte. Donc, on voit que les dieux environnants, le peuple d'Israël était fait, c'était des dieux qui étaient faits de mains d'hommes. Et le salut met l'accent sur leur sens. Il dit, mais ils ont des yeux, mais ils n'ont pas de vue. Pensez un peu aux poupées qu'on peut avoir à la maison, des enfants. Mais ils ont des bouches, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent rien sentir, ils ne peuvent rien toucher. Ils ont des pieds, mais ils ne peuvent pas marcher. Donc, ils montrent un peu la limite, effectivement, de ces dieux-là. C'est des dieux impuissants. Les cinq sens qui ne fonctionnent pas, en plus d'avoir des membres qui ne peuvent rien faire. Leurs dieux sont impuissants. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, pendant que l'Éternel lui fait ce qu'il veut. Ils sont dépendants de ceux qui les fabriquent. Ceux qui les fabriquent sont également impuissants comme leurs idoles de Dieu. C'est insensé que des hommes se confient en des dieux qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Ça, c'est trop bizarre. Trop bizarre. C'est-à-dire, moi-même, je fabrique quelque chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me lève, je peux dire ma montre. La montre, là, c'est mon Dieu. Bon, montre, à partir d'aujourd'hui, tu es mon Dieu. C'était un peu comme ça qu'ils faisaient. Donc, ils vont prendre des métaux et ils vont les fabriquer. À partir d'aujourd'hui, on déclare. Et puis, on commence à faire des adorations. On va même immoler des animaux. Mais en le faisant, on ouvre des portes à des puissances maléfiques. En le faisant, on appelle des esprits impurs sur nos vies. Et c'est ça, le Dieu des peuples, les dieux des peuples environnants. Alors, le psalmiste montre effectivement les limites de ces peuples-là. Et à partir du verset 9, il montre comment l'Éternel peut être un secours et un bouclier pour nous. Il dit, Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous et il bénira. Donc on voit ici que le psalmiste appelle maintenant, le psalmiste appelle autour de lui les enfants d'Israël à mettre leur confiance en l'Éternel comme il avait dit tantôt. Notre Dieu est au ciel, en lui on peut mettre notre confiance. Quand bien même que les circonstances, les situations soient difficiles. Premier appel qu'il fait, il fait appel au peuple. Il dit, on peut mettre notre confiance en l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est notre secours et notre bouclier. Deuxième appel qu'il fait, il fait appel à la maison d'Aaron. La maison d'Aaron, si vous voulez, on parle des sacrificateurs. Donc, il fait appel aux sacrificateurs qui sont les garants de la vie spirituelle même de la société. Donc, il leur fait appel. Mettez votre confiance en l'Éternel parce qu'il est notre secours et notre bouclier. Et par la suite, il va dire, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, c'est une expression pour indiquer effectivement tous ceux qui n'étaient pas juifs, mais qui avaient accepté le Seigneur, les étrangers qui avaient accepté le Seigneur. Cette illustration aussi est donnée lorsqu'on voit la dédicace du temple, lorsque Salomon fait la dédicace du temple. Il en parle aussi. Il dit, lorsque les étrangers viendront dans ce lieu pour invoquer ton nom, Seigneur, s'il te plaît, du haut des cieux, exauce. Donc, on voit comment déjà la grâce de Dieu s'étend, déjà, des enfants, des juifs jusqu'au monde entier. Comment Dieu manifeste sa grâce à l'endroit de tout le monde? Parce qu'il sait que le nom de l'Éternel est grand, et à cause de ce nom grand et puissant, des nations étrangères viendraient. Donc, il lance cet appel-là, afin que tous puissions mettre notre confiance, donc, en l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel. Et nous pouvons nous confier, en le disant, il montre effectivement que nous pouvons nous confier en l'Éternel parce qu'il est un secours et un bouclier. Le secours de l'Éternel fait référence à la délivrance, à la protection qu'il peut nous apporter dans la détresse, dans l'adversité. L'on peut se réfugier en l'Éternel. C'est ça notre secours. Et il est notre bouclier parce que c'est lui notre défense. C'est une barrière contre les attaques. C'est une barrière contre, toute agression qu'on pourrait avoir. L'Éternel est là pour nous protéger. Donc, il interpelle effectivement, le psalmiste interpelle effectivement les enfants d'Israël à mettre leur confiance donc en l'Éternel. Au verset 12, il dit, « L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Donc ici, il montre effectivement que l'Éternel n'abandonne pas. Sa grâce est là. Et il n'oublie jamais ceux qui se confient en lui. Il se souvient de ceux qui espèrent en lui. Il rappelle qu'il y a une promesse de bénédiction rattachée à la confiance en l'Éternel. Lorsqu'on fait confiance en l'Éternel, il y a une promesse de bénédiction qui est rattachée. Il n'abandonne pas. Lorsqu'on fait confiance en l'Éternel, sa promesse de fidélité est manifeste pour nous. Sa promesse de bonté se manifeste pour nous. Non seulement il bénit ceux qui se confient en lui, mais il bénit également aussi leurs enfants. Amen. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains, je pense constamment à tes remparts. Donc on voit comment Dieu, dans sa grâce, ne nous abandonne pas. Parce que c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Ton Dieu est un Dieu souverain. Et il fait ce qu'il veut. Et nous pouvons nous confier en lui. Par la suite, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence qui célèbre l'Éternel, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Tantôt, à l'entame du culte, on nous demandait, est-ce qu'on avait des raisons de louer l'Éternel? Une multitude de raisons de louer l'Éternel qu'on peut apporter devant l'Éternel. Donc le psalmiste encourage effectivement chacun de nous, encourage les enfants d'Israël à louer l'Éternel dès maintenant. Mais avant, il fait un rappel de base important qu'il voudrait qu'on puisse saisir. pour que l'on puisse se retenir. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Amen. Parce que c'est lui qui a créé les cieux. L'Éternel est souverain dans le ciel. Tout dans le ciel lui est soumis. C'est pourquoi vers le ciel, l'on peut porter nos regards. Parce que le ciel lui est soumis. Amen. Aujourd'hui encore, on peut s'approcher du trône de la grâce. Notre avocat y est pour plaider en notre faveur. En son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, 9 à 11. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. On peut approvisionner aussi les coupes des 24 vieillards qui se tiennent devant le trône de Dieu et apporter nos parfums, au fait qui sont nos prières. Apporter nos actions de grâce. Apporter, je dirais, nos louanges devant le trône de grâce. On peut remplir les coupes que tiennent les 24 vieillards, Apocalypse chapitre 5. Les 24 vieillards. La Bible déclare que ces coupes-là sont remplies de parfums qui sont les prières des saints. On peut apporter nos préoccupations au Seigneur. On peut apporter nos prières au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est le souverain du ciel. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Dans sa souveraineté, l'Éternel a donné la terre au Fils de l'homme pour qu'il puisse y vivre. Cependant, c'est à lui la terre. Autant le ciel lui est soumis, la terre aussi lui est soumise. Amen. Le verset 18, il dit, « Mais nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. » Donc le psalmiste, il conclut effectivement par ce verset 18-là. Pour nous interpeller à mettre encore notre confiance en l'Éternel, à le louer, à avoir cette espérance en lui, lui qui n'abandonne pas. Et nous pouvons lui faire confiance. Chers frères et sœurs, notre Dieu est au ciel. Amen. Et il fait ce qu'il veut. Rien ne le surprend. Il est vivant. Il connaît toutes nos circonstances. Son action, des fois, peut paraître parfois difficile à saisir, ou même à comprendre, ou encore peut-être non conforme à ce que l'on s'attend. Nous pouvons même penser qu'il est trop lent à intervenir. Comme le psalmiste nous l'enseigne ce matin, Dieu est au ciel. Et il travaille pour nous. Pas à cause de notre bonté, pas à cause de notre fidélité à lui, pas à cause de notre marche. Mais il travaille pour nous à cause de sa fidélité. Il travaille pour nous à cause de sa bonté. Et on peut regarder à sa fidélité ce matin. On peut regarder à sa bonté. Mais l'un des éléments qui nous permet de regarder à sa fidélité, de regarder à sa bonté, c'est lorsqu'on comprend, lorsqu'on compte ses bienfaits. Amen. Lorsqu'on compte les bienfaits de Dieu dans nos vies. Lorsqu'on se focalise sur les bienfaits de Dieu dans nos vies, cela nous permet de voir effectivement qu'il est encore capable d'intervenir et d'agir. L'Éternel, peut-être que tu passes par une souffrance quelconque, mais l'Éternel a vu ta souffrance. Oui, il a entendu tes cris aussi. Il les entend. Et même les cris que te font pousser tes oppresseurs, l'Éternel les entend. Parce qu'il connaît tes douleurs. Il a aussi senti certainement ton amertume et ta peine. Et il voit tes luttes aussi. Pour toi, il a un plan. Il a un plan de grâce. Pour toi, il a un plan de paix. Et pour toi, il a aussi un plan d'abondance. Un plan de restauration, un plan de victoire. Parce que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Et il ne t'abandonne pas. Finissons avec le psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ton Dieu te bénira du haut du ciel. Louons l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions ensemble. Père éternel, nous te bénissons, te disons merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Père, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, mon Dieu, pour ta bonté dans nos vies. Père, merci de nous garder dans le creux de tes mains, Seigneur. Merci d'avoir pour chacun de nous ici présents, Seigneur, tes bontés en réserve. Père, ce matin, je veux m'approcher de toi, Seigneur, tel que je suis, t'apportant l'état de mon âme, mon cœur, mes pensées, toute ma personnalité. Et dis, Seigneur, étends ta main et manifeste ta grâce dans ma vie. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur ici. Seigneur, tu connais, Seigneur, les peines, tu connais les souffrances, tu connais aussi nos reconnaissances. Seigneur, ce matin, nous voulons appeler à ta fidélité, à ta bonté, Seigneur. Père, si parmi nous, quelqu'un s'attend à ta fidélité, manifeste ta grâce. Seigneur, manifeste ta bonté et donne gloire à ton nom, éternel Dieu. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Seigneur, rien ne te surprend. Merci, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Bénis nos vies. Fortifie, Seigneur, comme on te l'a demandé tantôt. Fortifie les corps malades. Viens et guéris, Seigneur. Père, guéris les cœurs brisés. Fortifie les familles, les couples. Fortifie les enfants, Seigneur. Père, merci. Merci de nous bénir ce matin. Béni sois-tu, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre. Merci, toi qui es Dieu. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.